Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi, le premier Canu Info du lundi de l'année avec l'équipe du lundi. J'ai dit Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex, pour traiter l'actualité internationale.
Et Michel sur son lit d'hôpital, non,
oh, c'est pas grave. Peut-être pas, faut pas exagérer.
On va rassurer tout le monde.
Une petite... Oui. Une broutille au bout du pied.
Voilà.
Allez, 2013 donc est entamé, c'est le moment des vœux. On va pas manquer d'en faire, des vœux pour que les riches deviennent tous russes et que les Belges cocus, des vœux pour l'abolition de la richesse et partant la suppression de la pauvreté, plus de riches, plus de pauvres, des vœux pour le succès de toutes les luttes sociales, de Florange, Petroplus, Sevran, Notre-Dame-des-Landes, etc. Des vœux pour un mariage pour personne, le mariage étant une institution bourgeoise inepte à supprimer de toute urgence pour tout le monde. Des vœux pour une contraception choisie qui vous emmène pas à la morgue. Des vœux pour les charges de la protection sociale et des salaires sur les chiffres d'affaires au lieu de les mettre sur le dos des salariés. Et puis peut-être pour finir, parce qu'on pourrait continuer comme ça longtemps, des vœux pour arrêter de payer des logements aux riches pour qu'ils puissent les louer aux pauvres. C'est ce qu'a mis en œuvre une nouvelle fois notre ministre écologique Duflot. Donc vous voyez, on a déjà une bonne panoplie de vœux pour occuper notre année. Il reste à confronter ça à la dure réalité. Peut-être, Robert,
voilà, c'est ce qu'a fait le DAL, le droit au logement, dès aujourd'hui. Hein. Comblé ton vœu. Ils ont occupé un grand immeuble à Paris. Ils ont mis 60 personnes dedans aujourd'hui. Voilà.
Voilà, rubrique internationale peut-être pour commencer, oui, comme à notre habitude. Oui. T'as un sujet qui te paraît prioritaire à traiter.
Prioritaire, non. Je voudrais Rouillot. C'est pas prioritaire, c'est presque affectif, avec le recul nécessaire, mais néanmoins affectif. C'est un peu regarder comment va évoluer la situation au Venezuela, compte tenu que effectivement au niveau de du pouvoir, les choses vont sans doute changer, compte tenu de la maladie, semble-t-il cette fois-ci le conduire à l'incapacité d'exercer le pouvoir. Je parle d'Hugo Chavez, qui est toujours soigné à Cuba. Alors, les institutions fonctionnent normalement, quoi qu'en dit la droite vénézuélienne et tous ceux qui en Europe ne rêvent que de la fin de Chavez et puis la fin du début du socialisme qu'il avait mis en place, lui et pas tout seul, dans ce pays, et puis tout ce que ça avait comme écho dans ce grand hémisphère amer indien. Puisque, bon, peut-être que le 10, c'est-à-dire dans 3 jours, la prestation de serment suite à la réélection de Chavez ne pourra sans doute pas avoir lieu, du moins pas au Venezuela, mais après tout, c'est quelque chose de formel. Il est vrai que quand on regarde les choses de près, c'est très formaliste, même si ça peut apparaître un moment important dans l'organisation de tous les États, puisque ce qui était important, c'était surtout que l'élection a eu lieu et que l'élection, sans problème, a renvoyé Hugo Chavez au pouvoir pour un nouveau mandat. Donc, pas de Chavez dans 3 jours pour prêter serment, mais sans doute le pouvoir va continuer pour l'instant avec une intérim exercé plus ou moins par le président du Parlement qui vient d'être réélu parce que le parti socialiste unifié vénézuélien détient la majorité absolue, donc il n'a pas eu de problème pour garder la présidence de cette assemblée, donc stabilité de ce côté-ci. Et puis, deuxième pilier de la stabilité, c'est la présence d'un vice-président, Maduro, qui d'ailleurs serait, selon les vœux de Chavez, le candidat idoine s'il faut procéder à une nouvelle élection en cas d'impossibilité, ce qui peut apparaître maintenant quasi certain, d'exercice du pouvoir, et donc conduire à une nouvelle élection présidentielle au Venezuela sur une base qui, semble-t-il, ne devrait pas poser de problème au maintien au pouvoir du Parti socialiste unifié vénézuélien, qui vient très largement de gagner les élections régionales. Donc ça s'est passé il y a 3 semaines. Donc on ne pouvait pas dire que le système était en déclin du fait de l'absence de Chavez, puisque la machine politique a bien fonctionné et s'est enracinée. Donc il ne devrait pas y avoir de changement à attendre, quitte à décevoir tous ceux qui souhaitent la disparition de Chavez et du système qu'il a mis en place, mais pas tout seul. Alors, rappelez simplement que ce que représente Cuba, c'est ce que représente le Venezuela, c'est d'une importance parce qu'il est un des premiers producteurs, je ne sais plus la place qu'il occupe, producteur, exportateur de pétrole, et que surtout, il avait mis une politique où, par exemple, le pétrole, il était différencié dans son prix à l'exportation, y compris également dans le prix d'utilisation à l'intérieur du territoire, prix de l'essence, mais prix surtout des produits de chauffage. Mais à l'extérieur, il était moins cher pour les acheteurs pauvres que pour les acheteurs riches. Les Américains payaient le pétrole vénézuélien plus cher que les Équatoriens ou les Boliviens. Je dis ça à titre d'exemple. Et puis, il y a ce système d'échange. Cuba, effectivement, reçoit plusieurs centaines de milliers de tonnes de pétrole vénézuélien. Et en contrepartie, Cuba donne ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire soigner les gens. Même là, s'ils ne réussissent pas à sauver Chavez, il n'empêche qu'ils ont un savoir-faire médical, chirurgical très fort. La preuve, c'est que les frères Castro se portent très bien tous les deux, y compris Fidel, qu'on voyait mort déjà depuis 5 ans. Voilà, c'est tout ça qui est bien présent et je crois que si Chavez demain disparaît, ce qui, nous dit-on, paraît probable à court terme, c'est toute l'Amérique, cette nouvelle Amérique progressiste qui lui rendra sans doute hommage et qui, par cet hommage, fera que la politique régionale continuera ce qu'elle était devenue.
Voilà, pour un sujet sur lequel nous reviendrons forcément assez rapidement. On peut parler un petit peu, peut-être des États-Unis, où il y a toute une batterie d'informations qui nous viennent des États-Unis. Le fait que Obama remplace son ministre de la Défense par un personnage qui vient un peu atypique, qui est républicain, et qui a des positions souvent contestées aux USA. Alors, quel est le sens de cette nomination? Est-ce que c'est pour déstabiliser les républicains? Est-ce que ça correspond à une nouvelle orientation qu'Obama veut donner à sa politique internationale? On peut se poser des questions. Ce personnage n'est pas très pro-israélien, ce qui évidemment fait hurler un certain nombre de gens là-bas. Il serait contre les actions contre la guerre en Irak, contre l'intervention contre l'Iran. Enfin, une inflexion de la politique pourrait être à l'œuvre à travers cette nomination. Et puis on sait que Obama essaie de encadrer, c'est même beaucoup dire, un petit peu la vente des armes avec ce lobby NRA, il s'appelle. Il voudrait essayer d'obtenir un peu des renseignements sur les gens à qui on donne des armes, de faire des fichiers. Mais ce sera très difficile parce qu'il peut bien y avoir n'importe quelle exaction avec autant de morts qu'on veut, 10, 20 ou 30. Ça ne les décourage absolument pas de filer des flingues au premier venu sans compensation, sans contrôle réel. Et puis, il y a cette décision qui est à prendre, qui n'est pas prise, nous dit-on, concernant la présence des Américains en Afghanistan. D'ailleurs, Karzan est aujourd'hui à Washington pour parler de ça, sans doute. À savoir, il reste 66 000 Américains. Va-t-on en garder 6 000, 10 000 ou 20 000 avec des missions qui seront forcément pas les mêmes selon le nombre? C'est une question qui se pose. Puis, en toile de fond, dans les rapports étatiques entre les États-Unis et l'Afghanistan, le problème de l'immunité des soldats américains, soldats ou pas soldats d'ailleurs, peut-être quelquefois des milices, à l'œuvre sur le terrain, ce que réclament bien sûr les États-Unis, ce que voudrait voir remis en cause le gouvernement de Kaboul, tout comme en son temps l'Irak aussi protestait contre cette immunité qui donne le droit de faire n'importe quoi dans le pays aux Américains sans devoir rendre aucun compte à la justice du pays dans lequel ils sont. Voilà, quand on aura dit que Obama a aussi débauché une technocrate économique française qui porte le même nom que Cécile, mais c'est Esther cette fois, pour en faire son aide de camp dans le domaine, paraît-il, de la lutte contre la grande pauvreté aux États-Unis. Bon, ça nous laisse un peu perplexes tout ça, mais on verra bien ce qu'il en sortira.
Oui, à propos de, on pourrait ajouter au propos de pauvreté que on n'a pas bien compris finalement le consensus qui serait intervenu au Congrès permettant de faire que il n'y ait pas de blocage sur la poursuite de la gestion américaine parce que il y avait un problème effectivement de d'impôts qui se posaient en cette fin d'année. Et si l'accord n'était pas renouvelé, il y avait des impôts nouveaux qui retrouvaient de la vigueur.
On a du mal à saisir les détails, mais en gros, il semble que s'il n'y a pas un accord de trouvé entre les parlementaires de droite et de gauche, hein, pour faire court, ils sont peu de gauche d'ailleurs, eh bien, les mesures qui sont mises en place automatiquement sont encore plus lourdes pour les riches que s'ils acceptent quelques concessions dans un accord. Donc, en final, ça finit toujours comme ça, parce que ils choisissent le moins pire pour eux.
Oui. Oui, et surtout ce qui était en jeu, c'est la contrepartie que Obama allait devoir fournir, et tout le monde craignait que finalement soit remise en cause des aspects de la fameuse sécurité sociale sur laquelle il a tant bataillé pendant une grande partie de son exercice du pouvoir, qu'il a finalement réussi à imposer, pas complètement, mais bon, une grande partie de son projet social était passé, et certains, en contrepartie des sacrifices demandés aux riches, auraient bien aimé qu'ils taillent là-dedans pour faire bon poids. Et bon, il semble que pour l'instant, le service santé-sécurité tel qu'il avait été établi n'est pas touché. Il faut rappeler qu'il ne couvre pas l'ensemble des Américains, mais c'est déjà un mieux par rapport à ce que c'était avant.
Voilà, des fois que vous ayez eu des angoisses, le comité de Bâle vous a rassuré ce matin, puisque il était question d'imposer aux banques un certain ratio, c'est-à-dire un rapport de d'argent qu'il possède réellement en liquide par rapport aux prêts et aux emprunts qu'elles engagent de tous les côtés, eh bien finalement ce ratio, on verra la question dans 4 ans. Quoi. On a 4 ans pour mettre en place un nouveau ratio qui sécurise un peu mieux les banques en leur imposant d'avoir des fonds propres de manière à faire face à des situations qui pourraient leur subvenir. Du coup, que croyez-vous qu'il arriva ? Eh bien, les bourses ont aussitôt monté. C'est pas une bonne nouvelle pour les pauvres, c'est une bonne nouvelle pour les banques. Autre sujet, Robert, les élections israéliennes dans 15 jours, ça t'inspire avec une gauche centriste qui essaie de se réunir et qui n'y arrive pas bien face à Netanyahou.
Une gauche, effectivement, il faut mettre le mot entre guillemets, parce que dans notre esprit, le mot gauche recouvre pas seulement des aspects sociaux, mais devrait normalement recouvre des aspects de paix. Or, on sait que la gauche israélienne est essentiellement marquée par le Parti travailliste et est une gauche guerrière qui, au nom du sionisme, se veut pratiquement aussi combatif vis-à-vis de ses voisins que peut l'être la droite de Netanyahou. Bon, enfin. Est-ce que Netanyahou sera, comme tu le dis, mis en échec, surtout avec le retour de cette leader qui a repris du service politique, qui s'était retiré, qui était un peu plus à gauche de Netanyahou, et qui donc va la constituer peut-être la surprise de l'élection. Ceci dit, pour Israël, on apprend aujourd'hui qu'ils installent une clôture électrique à la frontière avec la Syrie. Là, c'est pas un mur, hein, peut-être parce que c'est trop long pour faire un mur, et puis qu'un mur, finalement, c'est... Enfin bon, ils le disent de toute façon, Bachar, on l'aimait pas, la preuve, on lui a quand même piqué le Golan et on veut pas le lui rendre, mais... On n'aime pas non plus les frères musulmans, et donc les frères musulmans, on n'est pas sûr qu'ils tiennent mieux leurs troupes que Bachar. Bachar, il tient bien ses troupes en main. Et donc, on construit un grand filet de protection électrique là, à la frontière, et naturellement, Israël n'omet pas de rappeler chaque jour que les constructions de logements par milliers vont bien avoir lieu, quoi qu'on puisse en penser ailleurs, et notamment quand c'est condamné par le Conseil de sécurité et puis l'Assemblée des Nations Unies.
Ah, puisque tu parlais de la Syrie, on va dire un mot de Bachar, qui avait disparu des écrans télé depuis 9 mois, qui a réapparu pour tenir un discours qui a laissé tout le monde un peu atterré, puisqu'il a parlé exactement comme si rien ne se passait et rien ne s'était passé, en tous les cas comme si sa remise en cause à la tête du pouvoir n'était pas du tout d'actualité. Il envisage son prochain mandat sur des bases d'élections à venir, à un moment où beaucoup d'autres gens, pas seulement en Syrie, pensent que son temps est révolu. On parle aussi maintenant d'une partition. Alors on dit peut-être que quand il tient ces propos-là, il pense à la petite partie qu'il va garder à l'ouest du territoire sur laquelle il va vouloir régner, abandonnant les deux tiers du pays aux forces armées diverses et variées, souvent
qui elles-mêmes ne sont pas unifiées.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Mm-hmm. En fait, il reconnaît que son pouvoir mène une bataille très dure contre ce qu'il appelle les terroristes, dont il dit qu'une grande partie sont des terroristes venus de l'extérieur, et pour une grande partie d'entre eux également appuyés par les impérialistes, les Européens, les Occidentaux, bon, et tout ça, que c'est ce qui fait que la Syrie est dans cet état. Bon, il reconnaît que la bataille est difficile, mais comme tu l'as dit là, et bon, pour lui, le pouvoir est solidement en place et il n'est pas question de discuter avec qui que ce soit d'autre qui accepterait de simplement de venir discuter et donc d'abandonner leur position de lutte armée de rebelles ou de ce qu'il appelle donc de terroristes. Donc effectivement, de toute façon, l'ensemble des seul axe qui permet d'unifier l'opposition, et c'est ce qui fait sa faiblesse, c'est que elle n'est unie que sur un seul point. On ne bouge pas tant que Bachar reste au pouvoir. C'est-à-dire que c'est excessivement négatif. C'est-à-dire que il y a une pause. Bon, il y a effectivement une structure élue qui est plus ou moins sous la pression occidentale est censée représenter toutes les forces combattantes. Mais en fait, personne ne se fait d'illusions. Et on sait bien que Bachar parti, chacun reprend ses billes, et puis c'est le chaos généralisé. Donc, l'opposition, elle ne peut pas aller plus loin que de dire il faut que Bachar parte, ou il faut qu'on le renverse. Alors, le premier qui arrivera dans son palais pour l'assassiner, comme on a pu le faire avec Kadhafi, eh bien, c'est peut-être celui-là qui gagnera le pouvoir, mais il n'y a pas d'autre solution. Bon, c'est extrémiste. Il ne faut pas oublier que, de toute façon, le monde est divisé sur la question syrienne, quoique les gens pensent des aspects non démocratiques du pouvoir de Bachar. Bon, c'est un pouvoir qui continue de s'appuyer plutôt sur le pluralisme religieux, qui est plutôt, bon, on ne veut pas dire laïque, mais qui quand même a des institutions qui ne seraient plus celles de demain si les forces, une grande partie, enfin les forces les plus solides prenaient le pouvoir. Et puis il faut rappeler aussi que deux grands pays comme la Russie et la Chine au Conseil de sécurité s'opposent toujours à toute intervention militaire d'appui, même si effectivement cette interdiction est contournée par un certain nombre de gens. Mais pour l'instant, le Conseil de sécurité n'a pas de position unanime, sauf à dire il y a eu un projet rédigé à Genève, confirmé au Caire, et qui pourrait être une démarche qui pourrait aller vers la préparation d'élections générales en Syrie. Et puis il faut rappeler qu'il y a aussi une grande partie de l'Asie, une grande partie, pour ne pas dire la totalité de l'hémisphère sud-américain, ne soutient pas du tout la position des Occidentaux sur cette question. Pour eux, y a pas un problème Bachar, il est au pouvoir, il a été légitimement élu, même s'il peut contester un certain nombre d'aspects, que donc il doit en partir qu'à travers un processus électoral. Et les latino-américains savent de quoi ils parlent, parce qu'ils en ont souffert de ça jusqu'au moment où, effectivement, n'a pas été établi des élections en présidentielle ou parlementaire qui permettaient effectivement d'assurer un vrai fond démocratique.
Voilà, rubrique européenne peut-être. Je voulais venir un moment sur un sujet qui concerne l'Espagne, qu'on est en train de découvrir, qui prend une certaine aura médiatique, c'est la question des enfants volés du fascisme. On a relativement ignoré cette question, mais jusqu'à la fin de Franco, depuis 36, donc pendant 36-73, hein, je crois, 75, je ne sais plus, Franco, pendant plus de 40 ans, des enfants ont été volés et revendu en Espagne par les fascistes, et revendu à travers des confréries religieuses. Et aujourd'hui, un certain nombre de de ces enfants, qui sont bien sûr devenus des adultes, se mettent à vouloir fouiller dans les archives sur leur identité, sur leur origine, ont beaucoup de mal à le faire, et même on a vu se cassent les dents. Mais ce scandale pourrait concerner, alors on est entre 2000 et 100 000, c'est possible que ça aille jusque-là, il va falloir élucider tout ça, d'enfants qui étaient... Alors comment on les prenait? En général, on choisissait bien sûr des jeunes femmes, des jeunes parents pauvres, on leur annonçait que leur bébé était mort, qu'il n'était pas possible de le leur montrer, et en fait, il n'était pas mort du tout, il était vendu. Et on a des témoignages d'une religieuse, par exemple, qui a avoué avoir fait payer un de ses enfants 150 000 pesetas, sur une rente qui était payable sur 10 ans. Quoi. C'est un scandale gigantesque lié aux dérives du fascisme, comme on le trouve un peu partout. Hein. On a vu des histoires similaires ailleurs. Mais le nombre est tel que ça paraît vraiment très hallucinant. Et... Alors l'Église, qui est bien sûr concernée, puisqu'elle était celle qui gérait les maternités en question, refuse d'ouvrir ses archives. Donc on en est là pour le moment, et la lutte de ces gens pour connaître leurs origines et la manière dont ils ont été arrachés à leurs géniteurs continue.
C'est une pratique, hélas, oui, que tu le soulignais, des fascismes, et plus récemment, on a l'exemple de la dictature en Argentine, qui ça même était encore dans le cynisme encore plus loin, puisque les femmes résistantes étaient violées, et les enfants leur étaient pris, et puis souvent donnés à des familles de militaires qui n'avaient pas d'enfants, des fascistes. Ça a été, il y a tout un dossier comme ça en Argentine et peut-être dans les autres pays d'Amérique latine qui ont connu la dictature aussi.
Voilà, tu avais d'autres infos internationales ou européennes avant qu'on fasse une pause musicale?
Simplement dire que, par exemple, à Bahreïn, on laisse toujours pas le peuple s'exprimer, alors que partout on dit oui, c'est bien, le printemps arabe, formidable, formidable. Il est formidable partout sauf à Bahreïn, où on ferme les yeux sur la révolte populaire. Alors on réprime fortement et on condamne lourdement ceux qu'on soupçonne, voire qu'on accuse d'être les instigateurs de ces révoltes populaires. Ça, c'est Bahreïn, ça dure depuis des mois. Ça, c'est fait partie de la chasse gardée des Occidentaux. L'Égypte, un mot pour dire qu'il y a un nouveau gouvernement, c'est pas trop quoi en penser. Alors, on nous dit que le président Morsi y a mis des gens plus sûrs que ceux qui étaient avant, notamment au poste de la finance, parce que et il a ouvert une grande discussion avec le FMI, Fonds monétaire international, parce que naturellement les caisses qui étaient déjà peu remplies avant la bataille anti-Moubarak, et bien là elles sont maintenant complètement vides.
Voilà, alors pause musicale avec deux circonstances, on va dire, avec André Bonhomme.
Jour de l'an, journée de galère pour le pauvre bougre qui n'a pas un rond. Jour de l'an, journée de colère qu'ils aillent se faire foutre tous autant qu'ils sont. Vladimir est dans la panade et son cœur est en marmelade. Plus de femmes, plus d'amis et l'enrage dans sa nuit. Bonne année, bonne santé à la tienne Étienne. Ronde jambes et civilité. Il y en a pour 3 semaines. Jour de l'an, c'est insupportable. Bon baiser, monsieur, soyez heureux longtemps. Jour de l'an, mais c'est lamentable. D'habitude, ce type, il me dessert pas les dents. Les marmots, les genoux, les vioques sont tout miel à croire qu'ils débloquent. Qu'est-ce qu'ils ont donc aujourd'hui? Dieu que l'aimant est gentil. bonne année, bonne santé, et ta sœur concombre. Au placard, tes civilités, casse-toi, tu me fais de l'ombre. Jour de l'an, un regard de braise, doublé d'un sourire pétillant de malice. Jour de l'an, tu as mis cette Thérèse qui passe et lui dit d'un petit air complice. Vladimir, tu sais dans ma piole, il y a de la place pour nos quatre épaules. Au lieu de mâcher ton ennui, viens partager mon frélichté. Bonne année, bonne santé, tu me plais beau prince. J'ai horreur des civilités, mais pour toi j'en pince. Jour de l'an, ils ont fait la fête avec trois fois rien jusqu'au petit matin. Jour de l'an, un fond d'anisette, du pain, du jambon, quel somptueux festin. Mais qu'importe le menu, Thérèse, je suis faux de tes yeux de braise. Amour, ami de ma vie, tu m'arraches de la nuit. Bonne année, bonne santé, quand deux cœurs s'envolent. Pas besoin de civilité, le malheur s'étiole. Le malheur s'étiole.
C'était André Bonhomme qui vous présentait ses voeux associés à ceux de Canu sur le 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info, du lundi 7 janvier 2013 avec Robert en duplex et Jean-Pierre dans les studios. On va commenter l'actualité nationale, bah, peut-être quand même ces négociations sur le marché du travail qui sont à J-7. Il faut que vendredi la copie soit rendue et que tout le monde soit d'accord. C'est pas gagné, ça fait déjà 3 mois que ça tergiverse. Parisot, qui dans ce jeu dit qu'elle est pessimiste sur le résultat, le gouvernement dit que s'il n'y a pas d'accord, eh ben c'est lui qui tranchera. Il va avoir du mal, il n'aime pas trancher Hollande. Alors qu'est-ce qui est en négociation? Du côté du patronat, une plus grande souplesse pour licencier. En échange de quoi réclament les syndicats? Des avantages sur la sécurisation de l'emploi. En gros, l'augmentation des indemnités de chômage et des stages à U et à DIA. Je pense pas que ce soit vraiment comme ça qu'on défendra les intérêts des salariés. Et puis aussi, une volonté des contrats courts qu'ils soient plus taxés au niveau en particulier des cotisations chômage, c'est-à-dire les CDD et les intérims, et diminuer les cotisations sur les CDI, parce que il faut dire que les contrats courts en question ont pris des proportions gigantesques. Ça, par rapport au CDI, il y en a de plus en plus. Il y a des gens qui font des CDD d'un mois l'un derrière l'autre. Les patrons ont déjà eu 20 milliards de diminution de charges, mais visiblement ça leur suffit pas. Ils en demandent une couche et c'est ce qui fait blocage dans ces négociations. Donc, à voir d'ici vendredi ce qu'il en sort.
Oui, et se livre une bataille à l'intérieur du patronat. Et je crois que aujourd'hui, demain, il y a des instances qui se réunissent. Alors il y a le grand patronat d'un côté, bon, c'est pas nouveau ça, et puis le petit patronat, les CGPME, petites et moyennes entreprises, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Alors visiblement, ils sont pas sur la même longueur d'onde concernant cette négociation. Bon, je crois pas que malheureusement les syndicats, qui sont pas forcément totalement unifiés, puissent en tirer avantage de ce qui divise ces deux patronats, qui c'est pas nouveau, le patronat des grandes entreprises et celui des petites entreprises moyennes. Alors ce qui par contre est peut-être intéressant de noter, c'est que enfin, rumeur ou vérité, Laurence Parisot, qui voit le terme de son mandat approcher, hein, c'est au début de l'été, je crois, c'est en juin.
Qui aimerait bien rester là.
Vous voudrez bien rester à son poste, et donc elle va être amenée à avoir une politique très, 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 très vigoureuse qui sera sans doute plutôt un renforcement de toute la partie conservatrice de son discours. On ne voit pas comment elle pourrait effectivement rameuter les grands et les petits si elle ne garde pas ce discours qu'elle a, qu'on lui a vu découvrir, enfin, c'est pas nouveau, mais ce discours, elle l'avait enflammé, et notamment à propos des 75% quand sont arrivés les premières, les noms des premières victimes, comme Arnaud et d'autres. Et là, elle avait pris un discours d'une grande violence pour dénoncer ça, et en fait, c'était pour elle le début de sa campagne électorale pour se rester au pouvoir. Et ça, évidemment, ça va sans doute peser sur la suite des événements. Et en face, alors, je pense que les syndicats n'ont pas le culte de la personnalité, mais néanmoins, quand ils sont au pouvoir pendant un certain nombre d'années, ils finissent par pratiquer, sans s'en rendre compte, l'absolutisme. Bon. Chérec est parti, remplacé par Berger. Bon, Berger, il est naturellement connu dans les rouages de la CFDT, mais Berger ne pourra pas forcément dire on va faire ci, on va faire ça. Bon, faudra qu'il compose. De même, pour ce qui va être dans quelques semaines, je ne sais plus quand, ce que va faire le successeur de Thibault, qui, bon, là, je crois que c'est dans quelques mois seulement, mais là aussi, les deux principaux syndicats voient leur premier responsable changer. Est-ce que ça va donner plus de démocratie, de dynamisme démocratique à l'intérieur des deux structures? C'est pas sûr. On peut toujours l'espérer.
Voilà, un autre.
Tu le disais, ça doit se terminer par.
Ah ben, vendredi, oui, par un accord.
Oui, vendredi. Et Hollande rêve toujours, il avait repris ça aux Italiens quand les communistes italiens s'apprêtaient à partager le pouvoir avec les démocrates chrétiens, le terme de compromis historique. Je crois qu'il est né, peut-être qu'il est né avant ça peut-être, mais bon, il avait été repris à cette époque, c'est-à-dire fin des années 70, et là Hollande l'a repris. Il dit on va réussir un grand compromis historique. Alors là, ça va être le boulevard devant lui pour les années qui viennent. Malheureusement, le compromis historique, il est loin d'être acquis, et comme tu l'as souligné, Hollande fait preuve de compromis, mais c'est un compromis qui est généralement dans le sens des plus forts, au bénéfice des plus forts. Alors bon, on verra.
Voilà, un autre sujet que je voulais aborder, parce que je trouve qu'il est drôlement traité par les médias, la presse en général et d'actualité, c'est la question de cette contraception avec les fameuses pilules de troisième et de quatrième génération. Il y a quand même une chose qu'il faut qu'on dise, c'est que quand on est enceinte, on n'est pas malade, mais quand on veut se contracepter, on n'est pas malade non plus. Donc si on peut comprendre que quand on est malade, certains médicaments risquent de vous tuer parce, à cause d'accidents ou dans un certain pourcentage, je crois qu'on n'a aucune raison d'accepter que des médicaments qui ont une fonction de confort de vie, et c'est pas joyeux de dire ça, puissent engendrer la mort des gens qui les prennent volontairement pour avoir un mieux-être, quoi. Alors, faut-il mourir pour les labos veilleurs? On peut se poser la question, puisque ces pilules de troisième et de quatrième génération, il apparaît de plus en plus qu'elles ne présentent aucun avantage thérapeutique. C'est une sous la poussée des lobbies commerciaux des laboratoires qu'elles ont été inventées et promotionnées avec des arguments qui sont de l'ordre de « ça fera disparaître votre acné », quel progrès, et avec un prix qui était plus élevé, avec un moment du problème de remboursement, mais on sait comment procèdent les labos, et cette affaire ressemble à celle du Mediator et à toutes les autres. On a des laboratoires qui ne sont pas là pour soigner les gens ou leur apporter du bien, ils sont là pour faire du pognon, quoi. Et si ces pilules-là sont un peu plus dangereuses que les précédentes, précédentes en matière d'accidents vasculaires cérébrales qu'elles engendrent, et on ne peut pas nous dire qu'il n'y en a pas, puisqu'on sait maintenant que depuis 2001, ce risque a été mis en avant. On sait aussi qu'aux États-Unis, il y a eu, je crois, 15 000 négociations d'indemnisation pour éviter des procès. Et depuis 10 ans, donc, Bayer sait très bien les dangers que présentent ces produits. Et Bayer, en France, et pas qu'en France, continue à les vendre et à les faire promotionner par des visiteurs médicaux. On voit même des éminents gynécologues prendre leurs plumes dans la presse pour défendre ces produits qui sont en fait des poisons. Parce que il faut plutôt dire aux femmes qu'il y a une panoplie de moyens de contraception possibles, hein, qui vont de la capote au stérilet en passant par la pilule. Et il y a plusieurs sortes de pilules. Les pilules d'il y a 20-30 ans étaient aussi efficaces et relativement moins dangereuses, elles l'étaient quand même un peu, que celles actuelles. Et tout ça n'est pas dit clairement, sauf bien sûr au planning familial où on entend un autre langage sur la question. Mais on a l'impression que certains journalistes emboîtent le pas, enfin sont bien sans doute soutenus en cela par les laboratoires, emboîtent le pas pour laisser entendre qu'il ne faut surtout pas s'élever contre ces produits, que les risques seraient bien plus grands que ceux encourus par les femmes qui les prennent. Eh bien tout ça, ça demande réflexion et ça demande aussi que les femmes prennent en main ces questions-là. Il y a suffisamment de femmes aussi, médecins, gynécologues, pour dénoncer et présenter clairement les choses sans conduire des jeunes filles, comme le cas de cette jeune Sophie, là, qui a failli laisser sa peau. Et c'est pas à suite de l'article paru dans Le Monde qu'un certain nombre de gens se sont émus. Eh bien, ça ressemble tout à fait à l'affaire du Mediator, où là aussi, on vendait un produit pour une autre fonction que celle, en fait, à laquelle il était destiné. Et ce produit était dangereux et on le dissimulait soigneusement. Voilà, dossier à suivre, on ne va pas en dire plus ce soir. Tu as peut-être un autre sujet, Robert, j'en ai aussi.
Oui, peut-être... Bon, on va dire ces fameux sujets sociétal, hein, mais il est à la fois très important, il n'a pas la gravité de celui que tu viens d'évoquer, mais simplement c'est à propos de cette manifestation des, on va dire en gros plutôt, des anti-mariage pour tous. En gros, ça recoupe plutôt des gens des chrétiens, des catholiques, plutôt les
ouais,
intégristes.
Puis ça fédère l'opposition politique aux socialistes, quoi.
Pas tout à fait, justement, puisque effectivement, Marine Le Pen ne veut pas défiler à côté de Jean-François Copé. Donc elle ne sera pas à la manifestation personnellement, mais le Front National a plus ou moins voté qu'il trouvait que c'était bien de protester ainsi, de soutenir ce mouvement, etc. Et d'ailleurs, le Front National est très divisé sur cette question. Bon, et Le Pen, Marine Le Pen, effectivement, elle qui veut dévorer tout cru l'UMP, ne veut pas se mettre à sa remorque dans le cadre de ce rassemblement hétéroclite où, effectivement, son père aurait fait un tabac, mais elle, je crois qu'elle n'a pas effectivement les mêmes ambitions que son père. Donc elle y sera pas. Alors, c'est pas... Ce qui est grave, c'est que cette manifestation ait lieu et que il y a tout un mouvement conservateur, réactionnaire qui va se rassembler dimanche, tout simplement parce que il y a des socialistes au pouvoir qui ne font même pas du socialisme, mais ça, rien que le fait que ce soit eux qui soient au pouvoir, ça les stimule et sans doute ça les renvoie au fameux grand précédent sur lequel Mitterrand avait reculé, c'était en 84, sur les problèmes de l'école libre. qu'on voulait, un peu faire rentrer dans le rang d'une autre manière, mais que bon, qui avait coûté. Enfin, Savary avait dit, moi, je me tire dans ces cas-là, et c'est un grand honneur qu'il a fait à la gauche en se retirant lorsque Mitterrand a décidé que finalement, il fallait renoncer à cette loi, la loi Savary. Donc il y a ça, mais il y a aussi comme une espèce de remontée jusqu'à la bataille de séparation de l'État et de l'Église, le début du XXe siècle, 1905, tout ça. Et alors, on nous dit, même des gens de droite qui ne vont pas y participer, disant, mais non, en fait, nos copains se trompent. C'est tout ça, c'est fini maintenant. Hélas, ça n'est pas fini, parce que dans une période de crise, tous les comportements conservateurs reprennent du pouvoir, et les religions en tête, et les années de crise, c'est-à-dire de misère. Et quand la misère est là, qu'est-ce qu'on voit en première ligne? Les curés, tous les curés, de quelque religion qu'ils soient, hein, j'emploie le mot curé, mais ça recouvre tout le panel des religions, plutôt des religions monothéistes.
Des ecclésiastiques divers et variés.
Oui, oui, les monothéistes, mais les autres ne sont pas en reste. Hein. Je ne donne pas beaucoup plus de crédit aux bouddhistes et autres formations religieuses sur cette idée de ce qu'est effectivement l'émancipation des individus.
Allez, petit clin d'œil aux médias aussi qui n'arrêtent, quand ça les arrange, nous font des grandes leçons d'écologie. Il faut absolument avoir des démarches, des comportements écologiques. Et puis quand ils se vendent 10% de bagnoles en moins, au lieu de sauter de joie et de crier « ça y est, l'écologie est en train d'emporter le morceau », tout le monde tire une gueule pas possible et dit « c'est la catastrophe pour le pays ». Alors il faudrait savoir ce qu'on veut. Hein.
Les écolos, là-dessus, ils sont discrets, mais ils peuvent pas, évidemment, ils peuvent pas. Ils sont au gouvernement, et dans le contrat avec le PS, ils n'ont pas dit « on ne soutiendra pas, on ne défendra pas l'automobile ». Là, bon, déjà, ils ont déjà fait un gros effort en disant « on ne soutient pas Airport, Notre-Dame-des-Landes, et puis un certain nombre de choses ». On veut plus d'arrêt de nucléaire, tout ça, mais bon, là ils n'ont pas signé là-dessus, hein, c'est vrai. Ouais. Oui.
Notre-Dame-des-Landes, t'étais pas au festival, toi?
Non.
On a des échos. 8000 personnes.
Ils étaient dans la boue jusqu'aux genoux, il paraît. Hein.
Ouais. Ouais, mais... ouais, du monde, et puis une bonne manière de relancer effectivement la mobilisation, la revendication. Et là, le gouvernement est un peu resté les bras ballants, il n'y avait pas grand-chose à faire, si ce n'est à les laisser s'exprimer. Et c'est peut-être quelque chose qui va jouer son rôle dans le redémarrage de la contestation.
Mais en fait, en même temps, a démarré la semaine dernière, ou c'est peut-être simplement aujourd'hui, cette fameuse commission de dialogue que rejettent la plupart des gens qui se mobilisent. Mais néanmoins, c'est alors les bases du dialogue, elles sont connues, et mal connues, parce que. La proposition du gouvernement sur la commission du dialogue, c'est finalement on discute de tout sauf de la remise en cause de l'aéroport. Alors effectivement ça bloque pas mal les choses dès le départ, mais on ne sait pas ce qui peut sortir de ce lieu de dialogue. Je crois que le gouvernement, effectivement, il voudrait bien ne pas être pendant 5 ans empêtré dans cette affaire, et en même temps il y a des forces économiques, financières, telles Vinci, qui sont derrière et qui elles aussi ne voient pas d'un bon œil toute tentative qui conduirait à renoncer à ce projet.
Alors Internet, Free nous a offert quelques jours de bonheur sur Internet en virant toutes les publicités qui pourrissent la vie de l'internaute à longueur d'heure. Mais hélas, ce n'est pas pour durer, c'est juste pour faire monter un peu la pression dans ces négociations avec Google. Internet, c'est un tuyau, c'est free. Le contenu, c'est Google, et free en a marre de transmettre des messages qui ne lui rapportent rien, ou pas grand-chose, alors qu'il y en a un autre qui se goinfre avec la publicité. Donc, bataille de requins, et on va voir ce qu'il en sort, mais à mon avis, ils vont bien vite trouver un accord.
Et en même temps... tous les opérateurs sont dans l'œil du cyclone de Que Choisir. Oh, c'est pas un grand cyclone Que Choisir, c'est une toute modeste institution de défense des consommateurs, mais ils sont tous en quelque sorte mis en cause pour tout ce qui dans les contrats apparaît finalement hors droit.
Voilà, as-tu encore un sujet ou deux à traiter avant qu'on arrive au terme de ce journal ? Virgin qui
oui,
ferme.
Oui, voilà, il y a Virgin. Alors
c'est
Virgin,
quand même 1000 salariés qui risquent de se retrouver au chômage, quoi.
Tout simplement parce que ce fou de fondateur, là, que tout le monde vénérait, avait vendu tout Virgin à ses fonds de pension, je ne sais pas, oui, c'est ça.
Oui, c'est un fonds de pension. Quoi. Des gens qui veulent 10 ou 15% de rendement annuel, sinon ils liquident tout. Quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, alors, il paraît qu'ils vont être là demain. Ils n'étaient pas là aujourd'hui. Donc, ça a capoté, la réunion aujourd'hui. Mais ce fonds de pension sera présent demain et va se faire prendre des œufs pourris dans la figure. C'est ce qu'on annonce.
Ça ne les empêchera pas de déposer le bilan.
Et puis il y a les promesses, mais les promesses n'engagent, etc., de Hollande vis-à-vis des salariés de Petroplus. Il leur a dit, oui, vous allez voir, il y aura un repreneur. Gardez, restez confiants et on en trouvera un. Ça, pour l'instant, ils ne se bousculent pas, les repreneurs. Il y avait bien un russe qui voulait y participer à la reprise, mais compte tenu du froid lié à l'affaire Depardieu, ça sera peut-être pas évident.
On pourrait peut-être demander à Depardieu, maintenant qu'il a mis tous ses fonds en Russie, il pourrait les faire revenir comme ça.
Oui, oui, oui.
Il y a un petit geste du gouvernement vers le solaire. On sait que ça a été très mouvementé ces derniers mois, même sous Sarkozy. Et là, il est question d'augmenter un peu le prix du rachat d'électricité des photovoltaïques quand il s'agit de produits fabriqués en Europe. Parce qu'il y a eu un dumping d'enfer mené par les Chinois qui ont livré des tas de cellules beaucoup moins chères que les européennes. Et d'ailleurs, qui ont créé pas mal de désagréments. On a pu savoir que des gens, leurs produits n'étaient pas fiables, ils sont récupérés des toitures esquintées et tout. Et du coup, une petite démarche avec l'idée de multiplier par deux l'énergie solaire à 1000 mégawatts à une échéance, je ne sais plus trop laquelle, bientôt.
Tu nous donnais un mot sur la vie, la survie des éléphants, là. Tu suis ce...
Maintenant, Brigitte veut aller retrouver Gérard en Russie. Si on lui estourbise les deux éléphants, c'est à peu près tout ce qu'on sait à l'heure qu'il est. Qu'ils vivent heureux, qu'ils aient de nombreux enfants, ce serait absolument parfait.
Mais pour l'instant, l'euthanasie...
Ils sont toujours vivants. Ouais, ils sont toujours vivants. Ouais, ça occupe beaucoup les Lyonnais. Tu sais, ça fait la une du Progrès, parce que tous les jours...
J'ai lu qu'il y avait même des veillées autour d'eux, tout ça, oui.
Voilà, ce que NUFOS Termini sera diffusé demain matin à 8h. Vous pourrez également le réentendre sur Internet, sur le blog du CanuInfo. Et on se quitte avec Francis Lamarck sur une chanson qui a un certain rapport avec l'actualité nationale.
Qui sera embêté. Tout ça parce qu'au bois de Chavis, il y avait du muguet. On t'enverra faire la guerre dans les fantassins pour que ceux de la dernière soient pas morts pour rien. C'est ce qu'on a dit à mon père et c'est ce qu'on m'a...